Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que les personnes qui ne parlent pas français ont eu la traduction de la prédication dans leur langue? Hernán, tienes el papel? Ok, il y a une traduction aussi en anglais, si jamais, pour ceux qui veulent. Merci à Jean-Haut, merci à Nels pour l'introduction de ce culte, qui nous a déjà bien plongé dans ce temps ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer une série de prédications qui va se dérouler en deux temps, sur deux dimanches. Donc le premier, c'est aujourd'hui, en l'occurrence, et le deuxième, ce sera dans un mois, le 22 septembre. Donc c'est juste après le culte de rentrée. Et ces deux prédications, elles vont tourner autour d'une expression qui résume tout l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Est-ce que vous avez des idées ? Une expression qui résume tout l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Parfait. 10 sur 10. Et je vous propose aujourd'hui d'explorer qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que ça voulait dire plus exactement, que Jésus parle du royaume de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que les Juifs de son temps ont entendu quand ils parlaient de ça? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils se sont imaginés? Et qu'est-ce qui mettait derrière cette idée-là? Ça, c'est pour aujourd'hui, c'est le programme d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, on aura l'occasion de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, le royaume de Dieu. Pour nous, dans notre société, dans le contexte dans lequel on vit, où est-ce qu'il se trouve, comment est-ce qu'on y prend part. Voilà. Ça, c'est pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Durant cet été, on a l'occasion d'innover un peu dans les cultes. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a eu l'occasion d'avoir Caroline qui a dansé ici devant même. Et je me dis que c'est vraiment l'occasion aussi pendant l'été, en format un peu réduit, comme on est en configuration un peu réduite, d'innover un peu. Et voilà. Et donc, je vous propose pour aujourd'hui de parler du royaume de Dieu. Et pour ça, de se mettre dans l'ambiance. Shalom, shalom les amis. L'avez-vous entendu, vous aussi, comme moi, comme tous les autres? Êtes-vous allé sur les rives du lac de Galilée? Il y avait tellement de monde. Je pense qu'on a dû se croiser, j'ai dû en croiser l'un de vous. Son enseignement est incroyable. Il parle de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il parle du Dieu créateur, du Dieu libérateur qui a sorti le peuple d'Égypte. Il parle de Dieu aussi comme d'un Abba, comme d'un Papa. Ça, c'est plus original. Son message est exceptionnel et aussi déstabilisant. Personnellement, à l'écouter, je suis tiraillé entre une admiration profonde, mais aussi le défi de prendre au sérieux ce qu'il dit. Au cœur de son message, il y a cette expression qu'il utilise sans cesse, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Je sais que vous, vous dites le royaume de Dieu, mais moi je suis juif. Moi, je ne prononce pas le nom de Dieu en vain, et je dis le royaume des cieux. Vous, vous êtes des païens. Ça ne vous dérange pas de dire le royaume de Dieu. D'autres utilisent encore d'autres appellations, comme la vie éternelle. C'est la même chose. Ce Jésus, il n'est pas comme les autres prophètes ou les autres rabbis. Il n'est pas comme les leaders religieux qu'on connaît. Il ne commence pas par nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, pour aller au ciel, pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Non, son principal message, ce n'est pas des conseils religieux ou des pratiques. Le cœur de son message, c'est une affirmation. Quelque chose est arrivé. Et rien ne sera plus comme avant. C'est un peu comme une nouvelle que l'on propage à haute voix. Le bébé est né, et il va grandir. La guerre est finie, on va pouvoir reconstruire. Ou plutôt, à votre époque, pour prendre un exemple plus contemporain, l'opération s'est bien passée. Le malade va pouvoir guérir. Dans ces affirmations, rien que je puisse faire pour changer quoi que ce soit à cette nouvelle. D'ailleurs, il l'appelle la nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car l'arrivée du royaume de Dieu, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et aussi un incroyable pied de nez à tous les grands de ce monde. Lui, le moins que rien, le fils de charpentier, celui qui vient d'un patelin, il ose utiliser le langage de la royauté et de la divinité. Je vous donne un exemple. Dans les archives, il n'y a pas si longtemps que ça, la naissance de l'empereur César, César Auguste, était présentée comme évangile, comme bonne nouvelle. Et lui, comment il ose utiliser cette expression ? Mais alors, quelle est-elle, cette bonne nouvelle ? Il la résume ainsi. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Bien sûr, le temps est accompli, vous avez tous la référence. Les prophètes, l'Ancien Testament, la Torah, le Tanakh. Tous ces prophètes qui ont parlé il y a des siècles de ce moment où Dieu enverrait son élu, son Messie, son Messie. Les psaumes parlent même de ce jour où c'est Dieu lui-même qui viendra régner sur terre. En effet, s'il n'y a pas de roi, il ne peut pas y avoir de royaume. Et si Dieu n'est pas ce roi, ce n'est pas le royaume de Dieu. Et la conviction dans tout Israël que je partage, c'est qu'un jour, Dieu va revenir, qu'il va renverser les païens, qu'il va sauver son peuple. Il reviendra à Jérusalem, en personne et avec puissance, pour remplir le temple de sa présence. Bon, j'ai un peu paraphrasé Ésaïe, je ne sais pas si vous reconnaissez, 52-55 à peu près, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Hein. Et nous, les Juifs, nous sommes nombreux à attendre la réalisation de ces promesses, à espérer que cela arrive promptement. Bon, même si clairement ce Jésus, il nous surprend un peu. Je vous en reparle dans un instant. Mais revenons à nos moutons. Le royaume de Dieu est proche. Ce qu'on peut dire, c'est que ce royaume de Dieu, c'est une sacrée révolution quand on lit les prophètes. Bon, pour enlever toute idée reçue, rien à voir avec l'idée de la fin du monde. Rien. Rien à voir non plus avec l'idée d'aller au ciel après la mort. Rien. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est l'idée que Yahweh, le Dieu d'Israël, va finalement prendre les choses en main et devenir le roi de toutes choses, dans le ciel et sur la terre. L'avènement du royaume des cieux, c'est l'inauguration de l'intervention de Dieu, de telle sorte à ce que Israël et tout le monde connaissent une transformation radicale et sans précédent. Et donc ce royaume de Dieu, Jésus nous dit qu'il est proche. Alors je sais qu'à votre époque, quand on dit qu'un train est proche, surtout quand c'est la SNCF, ça veut dire que la seule chose à faire, c'est de se croiser les bras et d'attendre qu'il vienne. Et si possible, patiemment. C'est parfois un peu l'image qu'on a du royaume de Dieu. Mais si je peux me permettre une suggestion, le sens original est plus proche de l'anglais, et nos amis anglophones le comprendront facilement. « The kingdom of God is at hand. » Le royaume de Dieu est à portée de main. Il est à portée de main. Ça veut dire que Jésus, il apporte le royaume si près, si proche, que l'on peut tendre la main pour le saisir et pour y entrer. Et donc là, l'idée, c'est plus simplement juste d'attendre, les bras en crois, d'attendre en croisant les bras, mais de faire cet effort pour tendre la main et pour le saisir. Cela demande une action, une intention de notre part. Que celui qui a des oreilles écoute. Alors le royaume de Dieu, c'est bien connu chez nous. C'est un sujet qu'on a vu et revu, hein, peut-être vous aussi d'ailleurs. Beaucoup ont des visions très différentes. Par exemple, vous connaissez peut-être les Zélotes. Les Zélotes, ce groupe politique révolutionnaire violent, ça vous parle ? Qui vivent actuellement même à mon époque. Bon, pour resituer un petit peu les choses, Israël vit sous occupation étrangère depuis des siècles. On a eu les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, les Grecs et maintenant les Romains. Tous des païens. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on est convaincus que Dieu reviendra pour renverser les païens et pour sauver son peuple du joug de l'oppresseur. Et les Zélotes, ce sont des Juifs qui affirment que la meilleure chose à faire en attendant que Dieu envoie son Messie, et en attendant l'avènement du royaume de Dieu, eh bien, c'est de se préparer à cette bataille. Quelques milliers de Zélotes contre des légions romaines, vous allez me dire, c'est perdu d'avance, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Un peu comme David et Goliath, apparemment, ceux qui étaient là la semaine dernière en ont entendu parler. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas gagner si on a Dieu de son côté. Mais Jésus ne délivre pas ce message-là. Il est même radicalement opposé. Il prêche l'amour du prochain, et même l'amour de l'ennemi, du païen. Et je vous avoue que moi, pour trouver un ennemi, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je sors dans la rue, je vois un Romain, et je sais à qui je dois faire du bien. Il a même repris l'un de ses propres disciples qui avait sorti une épée en lui disant « Non, tu te trompes, ce n'est pas par la force et par la violence que le royaume de Dieu s'approchera. » Bon, moi je me dis peut-être Jésus il est juste peureux. Ou alors simplement il est réaliste. Il voit que les Romains sont trop forts. Il voit qu'il vaut mieux se résigner. Ça c'est l'attitude des Hérodiens. Là aussi, ce sont des Juifs, des gens de mon peuple, qui ont choisi de s'allier aux Romains et qui soutiennent la marionnette qu'est Hérode et la dynastie d'Hérode qui est au pouvoir. Bon, ils ne font pas grand-chose, hein, c'est surtout les Romains qui contrôlent. Hein. Mais ces gens-là, ils sont mal vus par le peuple, ils sont méprisés par le peuple. C'est comme des collabos, des traîtres. Jésus non plus, lui, n'a pas donné son soutien aux Hérodiens. Au contraire, il a critiqué le pouvoir de Rome lui-même. Rome qui croit dominer les hommes alors que l'autorité n'appartient qu'à Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Rendez-lui ce qu'il croit posséder. Mais par contre, rendez à Dieu tout le reste, parce que lui seul en est digne. Il n'est pas zélote, il n'est pas hérodien. Alors, d'autres ont parlé que Jésus se retirait du monde, qu'il appelait à un retrait du monde dans lequel on vit, parce que le monde est en train de se détruire, on le voit bien. Il est en train de pourrir dans le mal et dans la violence. Et par conséquent, il faut nous préserver de ce mal-là. Il faut nous isoler du monde pour rester purs. C'est une des motivations de ce groupe qui s'appelle les Esséniens, vous les connaissez peut-être, qui vivent dans le désert. Mais clairement, Jésus n'est pas un Essénien. Au contraire, il parle de ses disciples comme des hommes et des femmes qui ne fuient pas le monde, mais qui l'éclairent, qui lui donnent du goût et qui empêchent son pourrissement. Il dit « Vous êtes la lumière du monde qui éclaire les ténèbres de ce monde ». Et vous êtes le sel de la terre qui lui donne du goût et qui évite qu'il pourrisse. Jésus n'est pas un Essénien. Et si le problème était spirituel, finalement ? Si c'est nos péchés, les péchés du peuple d'Israël, qui éloignent Israël de sa libération et qui l'éloignent de Dieu ? et que finalement le remède, c'est de pratiquer une vie pieuse, une vie plus conforme à la parole de Dieu, et de se purifier ensemble en mettant dehors tous les pécheurs, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Ce constat est défendu par un groupe que vous connaissez bien. Ça fait des siècles qu'il est là, qu'il est présent à environ. Vous le connaissez aussi parce que Jésus a beaucoup échangé avec eux. Ce sont les pharisiens. Les pharisiens pensent que le jour où Israël sera purifié de tout mal, quand Israël sera devenu pur et parfait, alors le royaume de Dieu pourra enfin venir. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus n'est pas tout à fait d'accord avec eux. Il mange avec des pécheurs, avec des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie. Il parle d'un Dieu qui nous accueille même quand on a péché, même quand on ne le mérite pas, quel que soit notre statut social. Clairement, Jésus n'est pas pharisien. Si on résume, on peut dire que Jésus appelle à une vraie révolution. Mais il n'a pas choisi la révolution des zélotes, la faire advenir par la force et par la violence. Il n'a pas choisi la voie des Hérodiens, en s'alliant avec le pouvoir politique en place pour faire advenir son royaume. Il n'a pas choisi la voie des Esséniens, se retirer du monde pour se purifier et laisser le monde se détruire. Il n'a pas non plus choisi la voie des pharisiens, qui affirment que ce sont les péchés du peuple qui l'éloignent de Dieu, et que c'est par une vie plus pieuse, une vie plus pure, que le peuple verra le royaume de Dieu, et en mettant de côté les pécheurs. Mais quelle est cette révolution que Jésus nous appelle, à laquelle Jésus nous appelle ? C'est une révolution spirituelle, mais aussi politique, sociale, économique, qui touche tous les domaines de nos vies et de nos sociétés. C'est ça le royaume de Dieu. Une invitation à repenser radicalement ce que l'on croit savoir sur Dieu, sur la vie, sur tout ce qui compte vraiment. Jésus dit que son royaume grandit non pas de manière conquérante et violente comme tous les royaumes de ce monde, mais il grandit à l'image d'un arbre. Lentement, silencieusement, Jésus a choisi la voie de la paix et de la non-violence. Il a choisi la voie de l'amour et de l'accueil inconditionnel pour inviter quiconque le souhaite à prendre part à cette grande aventure qu'est le royaume de Dieu. Jésus a choisi la voie du pardon, qui restaure les relations brisées et qui donne une nouvelle chance. Il a choisi la voie de l'espérance, qui ne se résigne pas, mais qui sait se réinventer et ouvrir de nouveaux chemins. Vous, les chrétiens, vous dites que vous suivez Jésus comme le Messie ? Quand vous appelez le royaume de Dieu de tous vos vœux, quand vous priez « Que ton royaume vienne, que ton règne vienne », avez-vous conscience de ce que cela signifie ? Seigneur Jésus, merci d'avoir lancé cette révolution il y a 2000 ans, d'être venu toi-même en personne pour inaugurer le royaume de Dieu. Seigneur, ce royaume, ta parole nous dit qu'il est justice, paix, vérité par le Saint-Esprit. Que cela puisse devenir une réalité dans nos vies. Transforme-nous, Seigneur, à ton image. Aide-nous à vivre cette voie à laquelle tu nous appelles, cette voie de l'amour et du don de soi. Amen. Alors, je vois qu'on a un petit peu le temps encore, mais s'il y en a, on ne fait pas souvent à l'église ici, mais s'il y en a qui auraient des réactions, ou des questions, ou des choses que ça a interpellé en eux par rapport à cet échange qu'on a eu, on peut prendre 2-3 minutes pour échanger maintenant. Donc si vous avez à cœur de réagir, de partager votre compréhension du royaume de Dieu ou la manière dont ça vous interpelle, on peut prendre encore 2-3 minutes et on pourra clore après avec le temps des annonces et je relaisserai la parole à Jean-Haut pour ça. C'est vraiment libre, voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole, c'est très libre. Si ça a suscité des choses en vous, des questionnements, on peut aussi en discuter en format plus restreint, plus réduit aussi. C'est aussi l'occasion pendant l'été, comme on est en petit comité, de pouvoir le faire aussi. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et puis du coup, je passe la parole à Jean-Haut pour la suite et pour les annonces.